Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose aujourd'hui de lire le début du roman de Camille Laurence intitulé « Dans ces bras-là », publié aux éditions POL en 2000 et qui a reçu cette même année le prix Fémina et le prix Renaudot des lycéens. Camille Laurence sonde par le prisme des hommes qui ont traversé l'existence de la narratrice l'essence même du geste amoureux. Lorsque les chapitres sont intitulés « Seul avec lui », il s'agit du psychanalyste. C'était lui. Au battement de mon cœur, je ne pouvais pas me tromper. Je sais que c'est difficile à croire, cette soudaine certitude, mais voilà. Je me levais. Laissant le verre plein sur la table, je payais et je le suivis. Il marchait vite, aussi vite que moi. J'aimais la façon dont il était vêtu, ses hanches étroites, ses belles épaules. Je ne voulais pas le perdre. À deux ou trois rues de là, il entra sous un porche, il disparut. Le temps que j'arrive et pousse à mon tour la lourde porte, il avait déjà pénétré dans l'un des appartements. Mais lequel ? On n'entendait rien dans la cage d'escalier. L'ascenseur était resté au rez-de-chaussée. Comment savoir ? Je montais sans faire de bruit, un tapis couvrait les marches. C'était un immeuble bourgeois de trois étages avec deux portes à chaque palier. La plupart s'ornaient d'une plaque en cuivre, certaines étaient silencieuses, d'autres laissaient passer le bruit d'une voix, la sonnerie d'un téléphone. Craignant d'être surprise immobile sur le paillasson, à regarder, à écouter, je redescendis. Les boîtes à lettres fournissaient peu d'informations, des noms, parfois même pas. C'était des boîtes anciennes avec une fente par laquelle on peut glisser la main. Dehors, les plaques brillantes, où je voyais le reflet déformé de mon visage, donnaient plus de détails, mais sans faciliter vraiment les recherches. Tous les occupants exerçaient une profession médicale. Un seul était avocat à la cour. Comment savoir qui il était ? Qui était cet homme ? Certes, il pouvait être avocat, il en avait bien l'allure. Encore que je n'eusse pour ma part rencontré qu'un seul avocat dans ma vie, quelques semaines plus tôt, qui ressemblait à un trafiquant d'armes, disons plutôt qu'il en était l'image idéale, celle que dessinerait spontanément la veuve et l'orphelin. Mais il pouvait tout aussi bien être médecin. Il y en avait là plusieurs. Je les passais en revue. Les noms, soudain, n'étaient plus arbitraires, prenaient valeur de signe, et je tentais d'y lire un sens, comme en un visage inconnu. Dans un immeuble 3e République, par quelque mystérieuse correspondance entre les lieux et les êtres, tous portaient des prénoms d'autrefois, des noms désuets. Raymond Lecointre, Raoul Dulac, Paulette Mézières, Armand Dombes. Mais non, non, j'avais mal lu. Pas Armand, Amand, Amand Dombes. Pédiatre, ancien externe de la faculté de Paris. Amand, oui. Je n'invente pas, ça existe. C'est dans les dictionnaires de prénoms. C'est le masculin d'Amandine, du latin amandus, choisi pour l'amour. Le plus célèbre des amants fut un moine qui se consacra à l'évangélisation de la Gaule dans les années 680, ainsi que me l'apprit l'ouvrage de référence consulté le même soir. Choisi pour l'amour, ça pouvait être lui, ça pouvait parfaitement. Il y a de ces coïncidences qui, dans un roman, paraîtraient pénibles, mais qui, dans la vie, répondent à une nécessité dont personne ne s'étonne. Amant d'ombre, ce devait être lui, élu pour l'amour et choisi par moi sous le sceau du plus profond secret. Amant d'ombre, une ombre d'amant, qu'il me tardait de transformer en proie, en lumière, en soleil. Je regardais tout de même les autres par acquis de conscience. Restaient Roger Bosque, masseur kinésithérapeute, rééducation post-traumatique. Et au même dernier étage, Abel Veil, psychanalyste, thérapie conjugale. Ils avaient la même spécialité. Je ne m'y attardai pas, car il me sembla que, arrivé sur ses pas dans le hall, s'il était monté jusqu'au troisième, j'aurais entendu une clé tourner, une porte s'ouvrir ou se fermer. Je m'en tins donc à mon intuition initiale, premier étage gauche, et notai son numéro de téléphone. Ma fille aînée avait ces derniers temps un rhume traînant. C'est à ce moment que le porche s'ouvrit sur une odeur de camphre suivie d'une vieille femme qui me dévisagea avec méfiance. Qu'est-ce que je faisais là? Je baissai les yeux sur mon calepin, la concierge, puis la regardai s'éloigner, glisser le long du trottoir, avec cette fluidité des gens qui ont toujours mis des patins chez eux, progresser jusqu'au coin de l'avenue. Serais-je la même un jour, aussi lente? Avant de comprendre sans plus de vélosité qu'il n'était peut-être lui aussi qu'un client impatient, je fixai mon carnet d'un air stupide. Qu'est-ce que je faisais là? J'attendais. J'attendais qu'il revienne, qu'il reparaisse. Je n'arrivais pas à partir. J'avais peur que tout s'écroule, que vu de loin, ça ne ressemble plus à rien, que ce ne soit rien. Je voulais le revoir. Je voulais que ce soit vrai, que l'ombre prenne corps. Et puisqu'il n'y avait dans la rue ni café pour la tromper, ni vitrine pour la réduire, ni abribus pour la gratifier, l'attente se statufia sous mon humble espèce au bas de l'immeuble. D'autres que moi auraient agi autrement, inspectant les salles d'attente, interrogeant les secrétaires, prétextant une urgence. J'en étais incapable. Je ne pouvais ni renoncer, ni entreprendre, seulement attendre. Mais attendre quelqu'un, n'est-ce pas un moyen d'être avec lui? Il ne vint pas. J'attendis près d'une heure, bouleversée, transie, il me manquait. Plusieurs personnes sortirent, ce n'était jamais lui. J'en conclus qu'il n'était pas un client, qu'il travaillait là, que je saurais où le retrouver. Je finis par m'en aller, car il n'était pas loin de 4 heures, et j'avais rendez-vous avec mon éditeur. Et s'il y a bien quelqu'un qui déteste arriver en retard essoufflé, le cœur battant et montrant sa folie, c'est moi.
Straight into
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Ce serait un livre sur les hommes, sur l'amour des hommes. Homme aimé, sujet aimant, il formerait l'objet et le sujet du livre. Les hommes en général, et les hommes en particulier, quelques-uns. Ce serait un livre sur tous les hommes d'une femme, du premier au dernier, père, grand-père, fils, frère, ami, amant, mari, patron, collègue, etc., dans l'ordre ou le désordre de leur apparition dans sa vie, dans ce mouvement mystérieux de présence et d'oubli qui les fait changer à ses yeux, s'en aller, revenir, demeurer, devenir. Ainsi, la forme du livre serait-elle discontinue, afin de mimer au fil des pages ce jeu de va-et-vient, ses progrès, ces ruptures qui tissent et défendent le lien entre elles et eux. Les hommes feraient des entrées et des sorties comme au théâtre. Certains n'auraient qu'une scène, d'autres plusieurs. Ils prendraient plus ou moins d'importance, comme dans la vie, plus ou moins de place, comme dans le souvenir. Je ne serais pas la femme du livre. Ce serait un roman. Ce serait un personnage qui ne se dessinerait justement qu'à la lumière des hommes rencontrés. Ses contours se préciseraient peu à peu de la même façon que sur une diapositive, dont l'image n'apparaît que levée vers le jour. Les hommes seraient ce jour autour d'elle, ce qui la rend visible, ce qui la crée peut-être. Je sais ce que vous allez dire, et les femmes, les autres femmes, la mère, la sœur, l'amie, etc., n'ont-elles pas autant de poids dans une vie, sinon davantage? Ne comptent-elles pas? Elle ne compterait pas dans cette histoire, ou très peu. Je donnerai au personnage ce trait précis de mon caractère, je le tiens de ma mère, ne s'être pendant toutes ces années intéressé, n'avoir pu s'intéresser qu'aux hommes. C'est ainsi, c'est un défaut si vous voulez, un défaut d'attention, une carence de l'esprit. Depuis toujours, elle regarde les hommes, rien d'autre, ni les paysages, ni les animaux, ni les objets. Les enfants, quand elle aime leur père. Les femmes, quand elle parle des hommes. Toute autre conversation l'ennuie, elle y perd son temps. Elle peut visiter les plus beaux pays du monde, voir les pampas, les déserts, les musées, les églises. Tous les voyages lui semblent vains, tant que n'apparaît pas, fût-ce en reflet, en mirage, en ombre chinoise, la trace d'un homme bleu, d'un gaucho, d'un Christ. Sa géographie est humaine, strictement. Elle ne fera jamais un kilomètre pour contempler seule un lever de soleil, une falaise ou les lignes au loin du Mont Blanc. Elle ne voit pas l'intérêt, elle a l'impression d'être morte. L'intérêt passionné qu'elle porte aux hommes, il faut qu'il le lui rende. Elle aime les hommes qui pensent aux femmes. Dès qu'elle arrive quelque part, où qu'elle aille, elle regarde s'il y a des hommes. C'est un réflexe, un automatisme, comme d'autres écoutent la météo. Une façon d'anticiper le proche avenir, de savoir quel temps il va faire. L'attrait n'est pas d'abord physique, en tout cas pas nécessairement, même s'il le devient souvent. Elle n'a pas de type particulier, pas de fascination spéciale, blond, brun, grand, mince, trapu, fragile. Elle a des préférences bien sûr, mais pas de système. Elle ne va pas à leur rencontre, du moins pas comme on pourrait croire. Elles ne font pas sur eux pour les capter, les saisir, leur parler. Elle les regarde. Elle se remplit de leur image comme un lac du reflet d'un ciel. Elle les maintient d'abord dans cette distance qui permet de les réfléchir. Les hommes restent donc là longtemps en face d'elle. Elle les regarde, elle les observe, elle les contemple. Elle les voit toujours comme ces voyageurs assis vis-à-vis d'elle dans les trains, maintenant rares, où cette disposition existe encore, non pas à côté d'elle, dans le même sens, mais en face, de l'autre côté de la tablette où gît le livre qu'elle écrit. Ils se tiennent là, c'est le sexe opposé. Je serai donc aussi ce personnage. On peut le penser, bien sûr, puisque j'écris. Puisque c'est moi qui les sépare entre nous les feuillets où je parle d'eux. Difficile d'y échapper tout à fait. Mais la question de la vérité ne se posera pas. Il ne s'agira ni de mon père, ni de mon mari, ni de personne. Il faudra qu'on le comprenne. Ce sera une sorte de double construction imaginaire, une création réciproque. J'écrirai ce que je vois d'eux et vous lirez ce qu'ils font de moi. Quelle femme je deviens en inventant cet inventaire, les hommes de ma vie. Le cliché est à prendre au pied de la lettre. Les hommes de ma vie, comme je dirais, les battements de mon cœur. Oui, voilà le projet dans sa définition la plus juste. Ce serait après un grand bal dont, passant de bras en bras, j'aurais, malgré l'ivresse, tenu à jour et conservé le carnet. Et l'on pourrait y reconnaître au fil des pages, des danses et des noms, le défilé irrégulier des cavaliers, bien sûr, leur manière propre, leur allure, mais surtout, dessiné par le mouvement même du tourbillon allant de l'un à l'autre, prise, laissée, reprise, embrassée, le cœur battant, la figure floue et chavirée de la danseuse en vue cavalière. Carnet de bal, ce serait le titre. Logiquement, le livre devrait s'ouvrir sur le père. Il y a toujours beaucoup à dire sur l'homme qui vous a conçu. L'histoire commence là. Malgré tout, j'étais assez tentée de faire entrer l'éditeur d'abord, parce que ce n'était pas ma vie que j'écrivais, mais un roman. Aussi, à peine de retour chez moi, non sans avoir au préalable pris rendez-vous chez le pédiatre, j'entrepris mon carnet de bal, premier tour de piste, valse à deux temps.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can, I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Thank you. And if you gotta sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
Amant d'ombre était un homme adorable, chaleureux, d'un contact facile. Ma fille rit aux éclats lorsqu'il lui proposa de la transformer en hérisson grâce à de minuscules aiguilles stériles. Il avait un diplôme d'acupuncteur. Bref, un type formidable. Monsieur d'Ombre père avait fait la Corée ou le Vietnam et sauvé du napalm sa future lignée. Du moins fut-ce ainsi que je me racontais l'histoire d'amour qui remplaçait la mienne inopinément, tandis que, tassé dans un coin sur une chaise, je me soumettais au principe de réalité. C'était un Asiatique d'environ 1,63 m et 45 kg, dont le sourire ne pouvait en aucun cas se substituer au visage ténébreux de l'inconnu aperçu la veille. Qu'il allait me falloir oublier, pensais-je, comme tout le reste, comme on oublie qu'on respire ou qu'on a le ciel au-dessus de la tête. Ce fut pourtant en levant machinalement les yeux vers le haut de l'escalier, triste et défaite au sortir de là, que je reconnus, actionnant une clé au troisième étage, le veston de tweed, dont je remarquais à présent la coupe impeccable, dans l'ouverture de la porte capitonnée où il m'accueillait pour le premier entretien psychothérapique que j'avais bien été forcée de solliciter auprès d'Abel Veil, puisque c'était lui. C'était un projet fou peut-être, mais aussi l'occasion de tenter ce pari. Séduire un homme non pas, comme d'habitude, en lui cachant tout, en masquant du moins l'essentiel, mais au contraire en lui disant tout, en disant du moins l'essentiel. Ce qui, de chacun, doit être su, ce qui suffit pour être aimé ou non. Sans doute aurais-je pu m'arranger à force d'efforts pour le rencontrer ailleurs qu'à son cabinet, pour approcher ses relations, ses amis, sa famille, pour entrer dans le cercle mondain qui m'aurait permis un jour d'être assise à côté de lui à table et lui demander quelle était sa profession et s'il voulait bien m'en parler un peu. C'est si passionnant, la psychanalyse, les méandres de l'âme humaine. Ce doit être dur aussi. Est-ce que vous n'avez pas envie d'autre chose parfois ? Mais les Russes ne me disaient rien, ni la patience qui les accompagne. Qu'il soit psychanalyste ne m'apparaissait d'ailleurs pas comme une simple opportunité de le voir vite en prenant rendez-vous, mais au-delà comme un moyen de savoir enfin ce qu'était l'amour, ce que j'attendais de l'amour des hommes. Ça tombait bien au fond cette foudre me transperçant à la terrasse d'un café, c'était un signe du ciel, cette flèche fichée en moi comme un cri à sa seule vue, cette blessure rouvrant les deux bords du silence, ce coup porté au cœur muet, au corps silencieux, par un homme qui pouvait justement tout entendre. Il me sembla que ce serait stupide de faire avec lui comme toujours et qu'avec lui, il fallait faire comme jamais. Je ne prétends pas qu'il n'y eût de ma part aucune stratégie. Si je commençais dans la tradition d'une thérapie ordinaire en lui parlant de mon mari, de mon couple, comme on dit, c'est que j'avais peur d'être découverte et renvoyée, que plus rien ne soit possible alors. Dans la suite, j'usais aussi des armes habituelles de la jalousie, de la coquetterie, de la séduction, mais peu, au fond. Bien sûr, je voulais qu'il me trouve belle et je me faisais belle pour aller à nos rendez-vous. Tel n'était pourtant pas mon objectif premier. Je voulais avant tout qu'il me connaisse, qu'il sache qui j'étais et le sachant qu'il m'aime. Je voulais savoir si l'on pouvait m'aimer autrement que dans le mystère, dans la nudité de ma douleur, dans ma misère. Longtemps, la main creuse attendant l'obol, j'avais mendié l'amour auprès de qui voulait m'entendre. Je venais de trouver à qui parler, c'était lui. Qu'on me comprenne bien, je ne suis pas tombée amoureuse de mon analyste. Une telle banalité, ajoutée à tant d'autres, m'aurait été intolérable à cette époque. Je ne l'aurais pas supportée. Non, je me suis éprise d'un inconnu qui s'est révélé être, par le plus grand des hasards, psychanalyste. Ce n'est pas la même chose. Même si j'ai vu dans ce hasard une chance, une promesse d'avenir, ce qu'on appelle un heureux hasard. Ce l'était d'autant plus que je venais d'entamer à la fois mon divorce et mon livre. Je pensais que la parole, si longtemps réduite à presque rien, allait à point nommé me faciliter l'un et l'autre. Il y avait bien quelque ironie à ce qu'il fût spécialisé dans la thérapie conjugale, puisque j'étais fermement décidée à laisser mon mari à l'écart de l'entreprise, et pour cause. Mais d'un côté, cela permettrait d'entrer aussitôt dans le vif du sujet, l'amour. Abel Veil était donc l'homme idéal, à tout point de vue idéal. Aussi, lorsque, s'étant assis en face de moi près d'un petit divan de velours gris, et ayant croisé élégamment ses longues jambes, il me dit « Je vous écoute », la certitude, éprouvée 8 jours plus tôt au café où je l'avais vue, revint plus forte que jamais, et ce fut exactement, dans l'acceptation à la fois triviale et passionnée, pragmatique et possessive de la formule, ce fut exactement comme s'il m'avait dit, avec le même sérieux amoureux et la même verve gouailleuse, tandis que des bribes de la chanson me revenaient en tête, ce fut exactement comme s'il m'avait dit « Je suis votre homme ». Dès lors, il n'y eut plus pour moi, pendant des mois, que 2 ancrages dans un temps qui dérivait, mon livre et nos rendez-vous. L'écriture dans la solitude de la mémoire et la parole dans le monologue de nos rencontres. Et il n'y eut plus aussi que 2 sortes d'hommes, ceux dont je parlais, dont je faisais revivre l'histoire à travers moi, et celui à qui je parlais, dont j'attendais qu'il donne une suite à l'histoire, ou peut-être qu'il me fasse revivre. Oui, il n'y eut plus au monde que 2 sortes d'hommes, les autres et lui. C'était « Dans ces bras-là », un roman de Camille Laurence. Lors des pauses musicales, nous avons écouté Fleury Breath, puis Leonard Cohen, I'm Your Man. Cette émission a été produite par Frédéric Guillon. Pour la suite de ce texte, je vous donne rendez-vous demain à 18h et je vous souhaite une bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.